Bonsoir à tous. Donc nous allons tourner nos Bibles sur le livre d'Exode. La semaine dernière, nous avons commencé avec une introduction sur ce livre d'Exode. Et nous avons vu certainement quelques versets de ce chapitre. Et nous allons voir ce premier chapitre du livre d'Exode. C'est quand nous entreprenons à lire un livre de la Bible, c'est comme si que nous faisons un puzzle et nous ne voyons pas le puzzle en entier. Nous voyons une partie, mais quand c'est fini, nous pourrons voir l'image en entier. C'est la même façon quand nous allons voir ce livre, mais on peut avoir une image de Christ, ce que l'œuvre de Christ sur la croix, et ce qu'il a fait pour nous sauver. Et donc, Exode, premier chapitre, on va lire ensemble. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et la crurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne une guerre, et il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisèrent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. » Que Dieu bénisse sa parole. Oui, je n'ai pas lu le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc, le premier 15 chapitres du livre d'Exode, ça parle de rédemption de Dieu. Les enfants d'Israël, d'Égypte. Comment Dieu il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et à partir du verset, chapitre 19 jusqu'à la fin, jusqu'à 40, ça, Dieu se révèle lui-même aux enfants d'Israël. Et premièrement, nous voyons le besoin d'être sauvé. Le besoin d'être sauvé, leur besoin d'être sauvé. Si nous pouvons diviser ce chapitre en trois, ça pourrait être le premier sept versets, et on voit qu'Israël se multiplie très rigoureusement, très rapidement. Le peuple d'Israël se multiplie dans le premier sept versets. À partir de versets 8 à 14, nous voyons que le peuple était très affligé par l'Égyptien, par ce nouveau roi Pharaon. Et le verset 15 jusqu'à 22, nous voyons que comment le roi Pharaon, il a fait l'extinction du peuple d'Israël pour détruire le peuple de Dieu. Et donc, premièrement, nous voyons que la promesse de Dieu qui s'accomplit dans ce chapitre, nous voyons comment Dieu, il commence ce qu'il a promis à son serviteur Abraham. Et en Genèse 12, 1 et 2, nous voyons, je vais lire pour vous, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton grand nom et tu seras une source de bénédiction. » Et quand Dieu l'a promis à Abraham, Abraham, il avait, je pense que 75 ans, et Sarah, elle était avancée en âge, et il n'avait pas d'espérance d'avoir une postérité, avoir un enfant. Mais Dieu l'a promis quand même. Et même si on peut aller bien avant, avant que Dieu l'a promis à Abraham, dans le troisième chapitre de Genèse, nous voyons que Dieu l'a promis à l'homme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu l'a promis que il aura une postérité qui écrasera la tête de ce serpent. Et vous rappelez, la postérité de la femme a failli être détruite dans le déluge, dans le temps de Noé. Un déluge quand tout le monde était détruit, le monde était détruit, mais Dieu l'a quand même gardé sa promesse en préservant une postérité qu'il a promis par Noé. Et nous devrions rappeler une chose dans notre vie. Quand Dieu nous promet quelque chose, il s'occupe. C'est lui qui garde sa promesse. Il est capable de garder sa promesse. Il s'occupe. Et il sait comment garder sa promesse. Il sait comment accomplir, comment il peut amener vers ce qu'il a promis. Il a tous les moyens sous son pouvoir d'accomplir tout ce qu'il a promis. Et quand et Satan, il tremblait parce que Dieu l'a promis qu'il accomplirait. Il tremblait par cette promesse qu'il écrasera ta tête. Et donc, Satan, il a tout fait pour détruire la promesse de Dieu, ce qu'il devrait accomplir. Et Dieu il fait tout pour garder sa promesse. Je vais lire de Genèse 46, le premier 4 versets. Le livre de Genèse 46, le premier 4 versets. Genèse 46, le premier 4 versets. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Regardez le verset 4. « Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Ce que la promesse de Dieu à Jacob. Mais c'est étonnant de voir que Dieu dit, « Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. » Donc, pendant 430 ans, le peuple d'Israël sont presque oubliés que cette promesse faite à Jacob. Ils ont oublié que Dieu était avec eux. Ils ont oublié l'état éternel. Quand Moïse, plus tard, dans le troisième chapitre, nous allons voir, quand Moïse, il va en Égypte, il demande qui est ce Dieu. Donc, Dieu dit, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Et en tant qu'un enfant de Dieu, nous savons que nous ne sommes pas là dans où nous sommes par un accident. La situation, ça peut être, peu importe. On peut se trouver dans une situation difficile, dans une sorte d'esclavage, et on peut se trouver où on ne trouve pas la porte de secours. Mais ce n'est pas par accident que nous sommes là. Et Dieu, il sait pourquoi nous sommes dans ce lieu ou dans cette situation. Et c'est Dieu qui a permis cette situation dans notre vie. Soit c'est un moment de prospérité ou un temps de persécution. Dieu sait pourquoi nous nous trouvons dans cette situation. Et Dieu, il veut avancer son plan. Dieu, il a un plan et il avance avec son plan. Et ça, c'est la vraie vie de le croyant quand on parle les individuels. Et c'est vrai pour les églises aussi, et ce qui était vrai pour la nation d'Israël. Et ça, c'est un des messages de ce livre d'Exode. Et dans le livre d'Exode, nous trouvons plein de vérités théologiques. On voit, ça parle beaucoup de Dieu, le caractère de Dieu. Et deuxièmement, pendant que nous lisions, nous étudions ce livre d'Exode, nous ne devrions pas oublier que c'est le récit d'histoire. Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël est raconté dans ce livre. Et aussi, nous ne devrions pas oublier que c'est la continuation de ce que Dieu l'a fait. Il a commencé dans le livre de Genèse. L'Exode se continue, c'est l'histoire continue en Exode. Et Dieu, il a un grand plan et il veut accomplir sa promesse. Il a promis un sauveur et Dieu, il fait tout que sa promesse s'accomplit. Parfois, nous pouvons oublier le passé. Nous avons la tendance d'oublier nos passés, mais c'est notre passé qui nous enseigne comment Dieu va nous diriger encore dans notre vie. Quand nous étudions notre passé, on peut savoir comment Dieu il conduit son peuple. À ce peuple, ils ont peut-être oublié comment Dieu il a conduit son serviteur Abraham, comment il a conduit Isaac, comment il a conduit Jacob. Et deuxièmement, nous ne devrions pas être collés dans notre passé. Et le passé, c'est simplement un guide pour continuer avec Dieu. Deuxièmement, chaque fois que nous lisons ce mot Israël, nous voyons avec Égypte. Et Israël était en captivité en Égypte. Il était en captivité en Égypte. Mais quand Dieu il a envoyé Israël en Égypte, son plan, ce n'est pas pour envoyer son peuple pour être persécuté. Il n'a pas envoyé que les Égyptiens persécutent son peuple. C'est pour les garder, c'est pour les secourir. Dieu l'a mis Israël en Égypte. Ça, c'était le plan de Dieu. En Genèse 50, 19, 21, nous lisons, je vais lire pour vous, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Il les consola et parlant à leur cœur. Donc nous voyons que l'homme, il a toujours mal fait des choses. L'homme, il a toujours mal fait les choses. Mais Dieu, il est capable de changer la table. Il a détruit le plan de l'homme. Et il a aussi détruit le plan de Satan. Satan, il voulait détruire le peuple de Dieu. Il essaie toujours pour tout faire pour détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu, il est souverain. Il est en contrôle. Il garde son peuple. Pour comprendre le verset 8, nous voyons, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et pour comprendre ce verset 8, nous devrions comprendre cette histoire, ce qui est passé en Égypte. Pourquoi ce nouveau roi qui n'a pas connu Joseph, il devrait décider de persécuter le peuple d'Israël. Soit il était ignorant de l'histoire, qui n'est pas possible. Joseph, il était tellement connu, il a fait tellement de bien pour ce pays. Certainement, il savait, mais peut-être volontairement, il ignorait et il a choisi de persécuter le peuple de Dieu, pour éclater, pour chaque homme, il peut être utilisé par le malin pour empêcher l'œuvre de Dieu. Et parfois, ça peut être nous, par ignorance ou par notre propre volonté, on peut tomber dans la main du malin pour aller contre la volonté de Dieu. En Proverbe 14, 17, je vais lire, « Le conseil et le succès m'appartient. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Donc, on peut voir qu'il y a des présidents dans le pays, il y a des hommes politiques et des grands qui gouvernent ce monde. Mais au-dessus de toutes ces choses, c'est Dieu qui règne. Récemment, on a eu des élections en Inde pour les Indiens. C'est triste de voir qu'à une certaine façon, le pays il est mené. Qui peut être contre les chrétiens, contre l'Église de Christ. Mais notre seule consolation, c'est Dieu règne. Et Dieu est souverain. Il peut, avec un souffle, il peut enlever quelqu'un. Il peut enlever quelqu'un. Et c'est nous devrions avoir peur uniquement de Dieu, pas les hommes. Et quelqu'un qui a dit que si quelqu'un a peur de Dieu, il n'aura pas peur des hommes, aucun homme. Et nous devrions avoir la crainte de l'Éternel pour ne pas avoir la peur pour des hommes. Et Dieu, il accomplit son plan et par l'obéissance de son peuple, la dernière partie. Quand nous sommes affligés, quand nous sommes persécutés, c'est très facile de tomber dans une situation de compromis. On essaie de faire un compromis avec le monde et on essaie de céder certaines choses pour gagner quelques faveurs. Ça, c'est quelque chose que nous sommes tentés. Et c'est très facile à être tenté pour apaiser les personnes qui nous persécutent, le monde qui nous persécute. Je ne sais pas si nous sommes des enfants de Dieu et si nous vivons dans ce monde, nous devrions sentir que nous sommes persécutés. Bien qu'en France, on n'est pas persécuté comme les chrétiens sont persécutés dans les pays occidentaux ou en Chine ou dans le Moyen-Orient, mais quand même, le peuple de Dieu est persécuté de la persécution culturelle, la persécution à cause de notre foi. Et c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et le peuple d'Israël, il devrait comprendre que l'Égypte n'était pas le terminus. Amen. Et le terminus était Canaan. Il était un endroit où il devrait rester pendant autant de temps que Dieu voulait qu'il séjourne. Et ce n'est pas la fin de cette histoire. Et Dieu, il a gardé, comme il a gardé Moïse dans une petite arche dans le Nil pendant quelques temps, l'arche flottait dans un fleuve infesté par le crocodile. Mais ça, c'était pas son lieu permanent où il devrait être. Dieu l'a dessiné le palais. Plus tard, Dieu l'a dessiné à amener Moïse dans un lieu où il peut utiliser Moïse puissamment. Et de la même façon, pour le peuple d'Israël, l'Égypte n'était pas le terminus. Jacob, il n'a jamais vu le Canaan, il a quitté. Mais en mourant dans la foi, lui et ses fils, il est devenu l'héritier de Canaan. Nous lisons en Hébreux 11, 16, « Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Donc, si nous devrions rester un peu pour réfléchir, pourquoi Dieu il a permis cette persécution à son peuple? Pourquoi Dieu l'a permis ça? Au départ, Dieu l'amène parce qu'il y avait une famine. Il a envoyé Joseph à l'avance puisqu'il peut préparer le pays pour garder son peuple. Mais c'est merveilleux le plan de Dieu. Comment Dieu il agit? L'homme, il ne va pas très loin. Mais il a envoyé Joseph. Mais la situation par laquelle Joseph se trouvait en Égypte, c'est très dramatique. Et c'est même triste. Mais Dieu, il avait son plan. Il voulait accomplir sa promesse. Donc, il a gardé son peuple en Égypte. Et pourquoi cette punition pourquoi cette persécution? Est-ce que c'est à cause de leur péché? Et certainement, les Hébreux, ils étaient corrompus avec l'Égypte, avec l'idolâtrie de l'Égypte et des autres choses. Dieu, il est juste, il ne peut pas laisser impuni son peuple quand il pêche. Dieu, il va punir parce que Dieu est juste. Et si son peuple, il commet les péchés, Dieu devrait punir son peuple aussi. Mais Dieu, il laisse son peuple d'habiter dans ce pays. Et ça, c'est la condition de pécheur dans ce monde. Et on se trouve dans ce monde où il y a le péché qui abonde. Mais puisque le peuple, il peut reconnaître leur état misérable. Le peuple, il devrait reconnaître leur état misérable. Deuxièmement, peut-être Dieu, il a laissé pour tester leur foi. La foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, où est devenue ce foi? Et pourquoi il a caché son visage? Pourquoi il était silencieux pendant tout ce temps? Mais on trouve nulle part que Dieu l'a parlé avec son peuple pendant ses 400 ans d'esclavage. Dieu n'a pas parlé avec... bien entendu, il a entendu leur cri, mais Dieu n'est pas intervenu pendant cette période. Est-ce qu'il a oublié sa promesse? Non, nullement. Et la foi devrait être testée. Si le peuple il avait la foi il avait besoin d'être testée. Et troisièmement, c'était comme une préparation, puisqu'il devrait quitter l'Égypte. La semaine dernière, j'avais dit que le peuple il commençait à être assimilé avec la culture d'Égypte. Ça, c'est un grand danger. Dieu ne veut pas que son peuple assimile avec le monde. Il prend la coutume de ce monde. Dieu, il a laissé dans cette persécution. Dieu a pu faire sortir son peuple d'Égypte dans une nuit, mais il fallait 40 années pour faire sortir l'Égypte de leur cœur. Et Dieu, il est capable de faire sortir son peuple, mais il a laissé, puisqu'il devrait être dégoûté, il devrait avoir un dégoût pour ce pays d'esclavage, de leur état. Parfois, je pense que nous aussi, on peut tomber dans cette... parfois, on aime ce monde. On aime ce monde. Je pense que si on est honnête, on devrait... quand on goûte de bonnes choses de ce monde, quand on a de certaines bonnes choses, on pense qu'on va rester éternellement ici. Mais par contre, quand nous voyons certaines d'autres choses qui nous troublent en tant que des enfants de Dieu, on dit, Seigneur, viens vite. On ne peut plus rester ici. On dit que, Seigneur, viens vite. Il y a des choses atroces que nous voyons, des choses atroces, des choses cruelles que nous voyons ici dans ce monde. Là, on pense que le monde, ce n'est pas pour moi. Je peux plus vivre dans ce monde. Mais Dieu, il peut... nous tester par des persécutions, puisqu'on peut avoir cette envie de quitter ce monde. Je ne sais pas, j'arrive à communiquer ce que je veux dire. Nous devrions avoir un dégoût pour ce monde. Nous devrions avoir un dégoût pour ce monde. Mais peut-être que ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Mais est-ce que nous aimons tellement le ciel pour partir vivre avec le Seigneur? Ou nous sommes encore attachés, enracinés, fermement dans ce monde? Et quand chaque fois nous pensons au ciel, est-ce que c'est la pensée doux pour nous? Ou on pense que, non, j'ai encore envie d'être pour encore de temps ici, dans ce monde. Nos attachements avec ce monde. Et ce peuple, il était tellement maltraité, là, ils sont criés vers Dieu. Ils sont criés vers Dieu. Voilà, Pharaon, il a tout fait pour détruire ce peuple, mais Dieu, il a son plan pour son peuple. Il voulait amener son peuple, il voulait faire sortir son peuple d'Égypte. Et donc, on peut être rassuré de ces choses. Le monde veut détruire le plan de Dieu. Satan, il veut détruire le plan de Dieu. Et Pharaon, il a demandé des sages-femmes de détruire tous les enfants mâles. Et ce que Hérode, il a fait quand Jésus est né, pour détruire tous les enfants mâles au-dessus de 2 ans. Parce que il craignait que le Sauveur, il est né. Et donc, il voulait détruire le Sauveur. Et de la même façon, Pharaon, il voulait détruire le Sauveur au cas où il était né là. Donc, Satan, il fait tout pour détruire le plan de Dieu. Mais Dieu, il est souverain. Et il accomplira ce qu'il a promis. Nous allons... il y a encore beaucoup de choses à méditer sur ce chapitre. Je vous encourage à lire chez vous. Nous voulons continuer avec ce livre d'Exode. Prions.